La Première Podcast. Un jour dans l'histoire, jusqu'à 14h30, sur La Première.
Le Batia Moursou, dont voilà un sujet au nom bien étrange, Jean Pollec. Alors, de quoi s'agit-il? D'une spécialité wallonne? Pas tout à fait.
Si, quand même, on peut presque présenter les choses comme ça. En tout cas, le Batia Moursou, c'est ce que j'appellerais, moi, un objet éditorial non identifié. Donc, c'est le titre d'une revue satirique qui paraît 3 ou 4 fois par an. Elle est réalisée par un collectif d'artistes de la région de Mons et de la Louvière. On y trouve pas mal de caricatures. C'est un peu une sorte de Charlie Hebdo ennuyé, mais à la différence qu'il y a peut-être une dimension artistique plus affirmée. On y trouve par exemple quelques noms de peintres connus et aussi une dimension politique un peu moins polémique, même si nos gaillards n'ont ni leur langue ni leur crayon dans leur poche, comme vous vous en doutez.
Alors pourquoi en parler aujourd'hui ?
Ah, eh bien c'est parce que tout simplement, cette aventure éditoriale et artistique tout à fait exceptionnelle fête ses 20 ans en ce moment et que ce samedi, à la Louvière, s'ouvre une grande rétrospective du Batia Moursou avec beaucoup de très belles œuvres à voir. Alors c'est drôle, c'est irrespectueux, je dirais délicieusement irrespectueux, c'est caustique, acide et de grande qualité.
Oui, mais le Batia Moursou, ça veut dire quoi finalement, Jean-Paul?
Voilà, ça c'est la question. Eh bien évidemment, je l'ai posé à Serge Poliard, un artiste de la région de Mons et qui est celui par qui tout est arrivé.
Le Batia Moursou, c'est la traduction du poème de Rimbaud, Le bateau ivre, traduit par Ernest Ocotte, qui est un auteur louviérois.
En patois wallon de la région de la Louvière?
Oui, c'est différent effectivement. Mons, c'est déjà le Picard, et ici, ce n'est plus vraiment le Picard. En fait, la traduction pour Mons, ce serait El Batio.
Alors très concrètement, Serge Poliard, le Batia Moursou, c'est le nom d'un bistrot à Mons. En effet, c'est aussi le nom d'une revue qui fête ses 20 ans, cette exposition dont on va parler d'ailleurs en rencontre. Alors ce bateau, c'est vous qui êtes la cheville ouvrière depuis le début. Quel était ce projet de ce journal tout à fait outrecuidant, absolument irrespectueux de tout?
En fait, la naissance, c'est la fermeture du café donc, que j'ai ouvert donc en 1983. Et je me suis dit, après avoir pendant presque 3 ans animé, à la fois il y avait une petite galerie où on a présenté aussi les éditions du Délibule, je me suis dit, il faut garder contact avec cette clientèle qui venait pour les expositions, pour les soirées où on invitait des artistes différents, que ce soit des musiciens ou des poètes. Et donc, je me suis dit, il faudrait garder un journal. Et on s'est dit, ce sera un journal de bord du Batia Moursou.
Très concrètement, qu'est-ce qu'on voit dans ce journal, Serge Poliard, au cours de ses 20 ans? Beaucoup de dessins, des articles aussi, mais c'est pas un journal qui veut donner de l'information, c'est un journal qui veut se moquer, qui veut critiquer. Quel était votre but aussi?
Effectivement, c'était de revisiter différemment, soit des informations que nous trouvions parfois absolument anodines, mais qu'on trouvait cocasse, etc. Donc, j'avais des amis illustrateurs, des gens qui faisaient de la BD, de la peinture, de la sculpture, et je les ai invités à venir s'exprimer pour illustrer certains, et entre autres aussi au niveau des textes, des poètes et des journalistes aussi qui ont travaillé sur certains sujets, des sujets au départ tout à fait montois, avec beaucoup beaucoup de dérision, quoi. Mais par la suite, on s'est vraiment ouvert. Par exemple, les premiers collaborateurs extérieurs, c'était les Liégeois, avec André Stas, le Cirque d'hiver. Puis, à un certain moment, nous avons eu, et d'ailleurs c'est toujours le cas, la page du Galopin, qui est une page qui vient de Spa. Et donc, dans cette page, on retrouve à la fois des poètes de la région de Liège, mais aussi des gens qui viennent de Paris. Vous voyez, donc il y a vraiment là, à partir de là, ça s'est vraiment ouvert, quoi. On n'est plus resté uniquement sur le territoire de Mons.
Les dessins, les caricatures, tout ce qu'on voit dans le Batia Moursou, c'est à mi-chemin entre effectivement le dessin de presse par certains aspects. Parfois, c'est de l'œuvre d'art pur. Il y a pas mal de gravures, pas mal aussi de dessins au fusain ou bien au crayon, enfin de ce genre de choses. Ou placez-vous le curseur et qu'est-ce qui vous guide dans ce choix ?
En fait, j'aime bien, par exemple, nous avons Philippe de Cressac, qui lui est vraiment, c'est le cartoniste. Hein. Il a travaillé pour Ciné, etc. Mais à côté de ça, j'aime bien des peintres hein, qui ont une expression. Là, on se rapproche quelque part de Daumier. Et à travers Daumier, il y a une toute autre poésie. Et d'autres artistes qui ont des influences sur du surréalisme. Et là, on rentre dans un travail qui est beaucoup plus poétique. Donc, je ne me limite pas uniquement à la caricature. Elle est d'ailleurs, je crois, c'est pas ça qui prend le, c'est pas ça l'essentiel du journal, quoi. De même qu'au niveau des écrits, j'ai des coups de foudre pour certains poètes. Et ici, dans la région de Mons, nous avons un poète extraordinaire qui s'appelle Claude Boens. Et je m'efforce, à chaque publication, qu'il y ait au moins un poème de Claude Boens. Mais il y a d'autres. Par exemple, ici, il y a un Bruxellois qui s'appelle Tom Nys. Donc, dans le contenu du journal, il y a à la fois, effectivement, de l'anecdote très légère, des dessins caricaturaux, mais aussi, entre guillemets, des œuvres d'art, quoi.
Que tu cours pieds nus, c'est que la terre va bien, qu'il n'y a rien à craindre, disait le vieil homme à l'enfant. Ton cœur c'est inconnu, découvre dans un rien un petit bonheur à peindre, et c'est l'amour qui le défend.
On entendait donc là Serge Poliard à propos du Batia Moursou, Jean-Paul, et on entend là une composition liée à la revue. Hein.
Oui, donc il y a, on ne l'a pas dit, mais il y a autour du Batia Moursou tout un groupe d'artistes, je dirais polymorphes. Hein. Il y a pas mal de chanteurs, notamment comme ici Evelyne Andilac qui nous chante « La vie défend la vie », c'est une de ses compositions. Donc voilà, c'est des gens engagés aussi, mais tout terrain, je dirais.
Alors le Batia Moursou, c'est une revue qui ne sort pas de nulle part, évidemment, qui a des racines, une histoire.
Oui, tout à fait, et pas n'importe laquelle, puisqu'en réalité, cette joyeuse bande de guélurons s'inspire directement du mouvement surréaliste ennuyé qui, quant à lui, remonte à l'entre-deux-guerres et même au début du XXe siècle hein, par la filiation d'André Breton notamment. On arrive même à Alfred Jarry et au mouvement dadaïste. Mais il y a une étape intermédiaire capitale qui s'appelle le Délibule hein, que tout le monde connaît dans la région de la Louvière et qui est donc ce mouvement également proche du surréalisme et qui a été fondé par André Balthazar et Paul Bury dans les années 1950. Alors on est là dans un humour assez féroce, hein, mais qui n'est ni du non-sens ni de la vulgarité gratuite, même si on y appelle un chat un chat. Et en tout cas, c'est ce que pense Serge Poliard.
Effectivement, dans le Délibule, il n'y a aucune vulgarité. C'est quelque part un peu la pataphysique. Le Délibule vient du mouvement Dada, en fait. Évidemment, par la suite, le surréalisme. Mais je pense qu'ils sont beaucoup plus proches de l'esprit Dada, où ils parviennent à remettre tout en question. Quoi. Par exemple, je pense à la phrase d'Alechinski, où il dit « En avant, il n'y a pas d'avance ». Et puis, une multitude d'autres phrases de Skutner, ou même de Chavet. « Je suis un vieux peau rouge qui ne marcherait jamais en file indienne ». Et ici, on a repris un aphorisme de Chavet pour illustrer l'exposition, qui est « Que deviendrons-nous avec la culture obligatoire ?» Je trouve que c'est d'une actualité extraordinaire. Donc c'est plus dans cet esprit-là. Donc il n'est pas ce qu'on trouve, par exemple, dans un journal satirique, ça va beaucoup plus loin. Quoi. Je ne peux pas dire que je suis engagé par rapport à des mouvements politique, il y a des choses qui sont très engagées dans le journal, mais je ne prends pas position et je ne revendique pas le côté militant. Hein. On est plus du côté poète et la remise en question complète d'une façon philosophique.
Et pourtant, il y a quelqu'un comme Raoul Van Eghem, donc l'un des moteurs du mouvement situationniste avec Christian Debord. On est là dans les années 60-70. C'est un collaborateur régulier du Batia Moursou.
Oui, pour moi, ça a été effectivement une très grande rencontre. Ça fait maintenant 10 ans que j'ai rencontré Raoul Van Eghem. Et à mon grand étonnement, il était vraiment charmé par le journal du Batia. Et alors, son premier texte était assez curieux, comme il me dit, écoute, j'ai un texte en picard, ça me plaît beaucoup d'écrire en picard. Et donc il m'a envoyé le premier texte de Raoul Van Eygem dans le Bâtiment Mourssou, c'est un texte en picard. Par la suite, on s'est revus et à chaque fois, bon, ben, il me demandait des nouvelles du journal. Et un des textes extraordinaires qu'il m'a fait, un des tout premiers textes vraiment, c'est lors de la veille des élections. Je lui pose la question, je lui dis, j'aimerais que tu m'écrives un texte sur les élections. Et alors le titre du texte, c'est « Pourquoi je ne vote pas ?». Alors, l'histoire de ce texte est extraordinairement, pour moi, vraiment extraordinaire, dans le sens où il m'envoie ce texte en mettant un petit mot, comme quoi j'en ai l'exclusivité. Parce qu'il me dit, j'ai envoyé ce texte aussi à Ciné. Mais quand j'ai rencontré Ciné dans le mois qui a suivi, directement, il me dit, tu es quand même un petit filou, tu m'as devancé par rapport à mon ami, parce que ce sont deux grands amis, Raoul Van Eygem et Ciné. Et puis bon, bah, c'était très sympathique, mais moi j'en avais effectivement la primeur. Je lui dis, mais tu sais que tu dois me demander l'autorisation, parce qu'il y avait cette petite note pertinente de Raoul qui disait à Ciné, tu dois demander l'autorisation au Bâtiment Mourssou. Pour... Je trouvais ça très beau.
Alors à propos de Ciné, donc le célèbre caricaturiste français, on va parler aussi un peu de Charlie Hebdo, parce que vous avez collaboré avec Charlie Hebdo de 2005 à 2008. Le Bâtiment Mourssou était encarté dans le Charlie Hebdo belge, alors enfin celui qui était distribué en Belgique. Est-ce qu'il y a comme ça, à travers les pays, à travers les choix éditoriaux, il y a quand même un cousinage, il y a des espèces d'alliances?
Ben, en fait, l'idée est venue quand on a eu, donc on a été encarté et distribué dans le Charlie pendant 3 années. Quand il y a eu l'événement avec Ciné, donc Ciné a reçu son préavis par rapport à, et nous avons pris position pour Ciné. Et ça nous a permis de travailler vraiment avec Ciné et de rencontrer toute l'équipe, donc les dessinateurs, les journalistes, qui ont, eux, collaboré avec nous directement. Donc nous avions un contact avec donc avec ces journalistes et avec ces dessinateurs. Et Ciné, à un certain moment, a interrompu son édition et est né d'autres journaux. Et donc là, nous avons rencontré des gens qui travaillaient donc à La Mèche, un journal qui a été fondé à l'époque, mais aussi des gens qui travaillaient sur Fakir, enfin d'autres, et La Brique aussi, qui est ici un journal lillois. Et on s'est dit, tiens, ce serait marrant de les inviter à venir lors d'une fête. Et donc la première fête a eu lieu à Mons, il y a maintenant 3 ans. Et on s'est dit, ben, on va appeler ça le camping de la presse indépendante. Et donc ces dessinateurs sont venus des quatre coins de France, de Belgique aussi. Mais il faut savoir qu'en Belgique, il n'y a pas tellement de journaux satiriques. Hein. Il y a le Poiscaille liégeois. Et puis, il y a des feuilles, d'ailleurs, qui sont... La Bruxelot s'est encartée dans le journal du Batia. Le Galopin n'existe plus, il est recréé par le Batia. Mais à part cela, je ne considère pas, par exemple, le journal Le Pan comme étant... c'est pas du tout la même... Parce que beaucoup de gens confondent. Le journal Pan, c'est un journal qui est plutôt de droite-droite, quoi, hein, qui est très, très engagé, je veux dire, politiquement. Ce que nous ne sommes pas, voilà, nous sommes plus dans la mouvance dadaïste, surréaliste et des libulliens, si on veut. Donc ce n'est pas, même par rapport à un journal comme Charlie Hebdo, le Bâtiment Mourssou s'en distingue. Par exemple ici, le dernier numéro que nous avons sorti il y a maintenant 6 mois, c'était avec la complicité donc des Français qui éditent le journal Zélium. Là, on peut voir vraiment la différence au niveau de l'esprit. Zélium est vraiment dans la lignée d'un Charlie Hebdo ou d'un Ciné Hebdo, mensuel maintenant. Et là, quand on regarde notre journal, ben, effectivement, nous sommes au niveau du contenu plus proche, au niveau de l'idée plus proche du Délibule. Parce qu'il y a de la poésie, parce que le choix des dessins n'est pas uniquement des dessins de caricature. Et on aborde la peinture, l'illustration. Je pense à des gens comme Armand Simon, qui est pour moi très important. Puis voilà, quoi. Et ça, c'est là où on ne retrouve pas ça dans un journal purement satirique.
Il y a tout à perdre, rien à gagner. C'est le règne des résignés. Et
Alors Jean-Paul, est-ce que vos petits camarades du Batia Moursou se rattachent aussi à la grande tradition de la presse caricaturiste de la fin du 19e siècle?
En tout cas, c'est ce qu'on peut en penser, parce qu'on trouve aussi un regard un peu nostalgique, je dirais même un peu désuet, hein, qui fleure bon la Commune de Paris ou même la Révolution de 1848, vous savez, celle qu'on a appelée le Printemps des Peuples, hein, qui a touché toute l'Europe. Alors oui, bah, d'une certaine manière, le Batia Moursou perpétue cette grande tradition d'impertinence politique, et il le fait d'une manière presque romantique. Et j'ai d'ailleurs demandé à Serge Polliard s'il assumait ce lointain cousinage révolutionnaire français.
Ben effectivement, je pense qu'on est très proche de cela. D'ailleurs, le numéro 1 du journal du Batia, c'était dans l'idée d'une grande affiche que l'on a réalisée et qui était, à l'époque de la Révolution, c'était placardé sur les murs de Paris, etc. Et le départ du Batia Moursou, la première publication, le numéro 0, c'était une affiche vraiment réalisée de très grand format, qui était donc on part avec cette idée-là, c'est vraiment ça. Par la suite, effectivement, le journal, on l'a remis aux normes, je veux dire, pour pouvoir être distribué. Mais le départ, celui-là, et tout ce qui a suivi à travers les... Donc, si on revient à la 48, 1848, et puis la Commune, tous ces gens qui ont animé, qui ont... Ben voilà, ce sont des gens qui, moi, personnellement, existent et représentent beaucoup de choses pour moi, évidemment. La Commune, c'est fabuleux. Et c'est d'ailleurs pour cela que dans le Batia, depuis maintenant, je pense, une petite dizaine d'années, il y a Fanchon d'Amers qui fait une page qui s'appelle « Le cabaret des âmes » et qui retrace toute cette épopée de la Commune. Et elle le fait d'une façon extraordinaire parce que donc elle se documente et alors elle essaye de retrouver des liens avec des gens qui ont vécu ici dans la région, enfin de Liège, du Hainaut, des gens de Mons, de la Louvière, etc. Et elle fait vraiment des découvertes fabuleuses, quoi.
Il y a de la nostalgie dans votre travail. Vous êtes tourné vers le passé.
Je pense que il y a le fameux dicton, la pensée de Skutner qui dit rien sans passé ou un truc qui est proche de ça. Et je trouve ça vraiment très très fort parce que sans mémoire, on est condamné à refaire exactement les mêmes bêtises, quoi.
En même temps, on le dit, hein, cette revue, le Batia Moursou, est très irrévérencieuse. Hein, vous ne respectez pas grand-chose, même si c'est pas très très agressif. Mais notamment, vous écornez les politiciens locaux, qui sont d'ailleurs pas si locaux que ça pour certains d'entre eux. Ils ne vous en gardent pas rancune.
Non, jusqu'à présent, je dois dire qu'Elio a toujours été très compréhensif, puisque l'allusion est Elio. Et je dirais plutôt que les autres politiciens sont un peu jaloux de ne pas être égratignés dans le journal du Batia. C'est plutôt la critique est plutôt acerbe du côté de la culture. Et là, il y a vraiment des mécontents, quoi. Là, ce qu'on égratigne. Mais au niveau du politicien, et surtout Montois, non, ils sont à la limite, bon, c'est ce que j'ai dit, ils aimeraient bien être caricaturés, et puis, ce qui n'est pas toujours le cas, quoi.
On n'entend plus parler que de crise, plus y a de les plus on crève de faim, plus y a de richesse et plus y a de nuise, plus y a d'or, plus y a de rotin.
Voilà, c'est avec Fanchon d'Amers, c'est ça Jean-Paul, hein?
Oui, tout à fait, donc qui est une des artistes qui gravite dans le groupe, hein. Et puis la chanson qu'on a entendue précédemment, c'était un texte de Raoul Van Eghem. Donc vous voyez que tout est dans tout et inversement.
Et c'était Serge Polliard, cet artiste, oui. Graveur, peintre-graveur, fondateur et cheville ouvrière du Batia Moursou qui nous a accompagnés. Fondateur donc de cette revue satirique basée dans le Hainaut qui fête ses 20 ans et il y a une expo Jean-Paul.
Oui, tout à fait, donc une rétrospective qui se tient à partir de ce samedi au Libulle, c'est à la Louvière, rue de la Loi, c'est jusqu'au 26 avril. Tous les renseignements sur le site Libulle & Co.
Merci, un de ces jours, Jean-Paul.
À votre service.